Bonjour à tous, c'est Tristan et on se retrouve aujourd'hui sur IMC Radio en compagnie de Geoffroy.
Yo.
Et de Clément.
Bonjour à tous.
Donc on est là pour apprendre de nouvelles choses. Alors Geoffroy, un petit débriefing s'il te plaît.
Oui, bien sûr. Donc on va parler de faits divers, de technologie et de cinéma.
Un sujet très divers, hein, très intéressant.
Donc on va commencer par Maëlys, Juliette et Alizée sur le hip-hop.
Ah, le hip-hop, la danse des jeunes.
Alors les garçons, pour vous le hip-hop c'est quoi?
Bah, je sais que c'est une danse très mouvementée, très rythmique, et il faut vraiment la condition cardiaque qui tienne.
Moi je n'ai pas d'avis.
Ah oui, d'accord.
Okay. Donc on va alors laisser la place, et puis bah, vous les filles.
On va vous parler aujourd'hui de la danse hip-hop.
Donc juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on a voulu demander aux élèves et aux enseignants de l'IMAC à quelle image ils associaient cette danse et s'ils en avaient déjà vu. Donc on a réalisé quelques interviews.
C'est des mecs qui dansent bien, ils font pas mal d'acrobaties, enfin ils font des saltos.
Danse hip-hop, j'associe à danse de rue, danse plutôt jeune et une danse plutôt enjouée et sympathique.
Donc le hip-hop, je trouve que c'est une danse super sympa que j'ai découverte récemment. C'est très animé, les danseurs sont de vrais acrobates. C'est une musique, je pensais plutôt des rues, et finalement, je pense que ça commence à se développer, voilà, c'est accessible à un peu plus de personnes maintenant. J'ai vu même des filles, je pensais que c'était réservé qu'aux garçons, et en fait, il y a de plus en plus de filles qui pratiquent cette danse.
Une danse, bien sûr, qui bouge beaucoup. Pour moi, ça a beaucoup à voir avec la ville. C'est une danse urbaine. Plutôt. Et ouais, j'ai vu un super spectacle de très jeunes enfants aux États-Unis cet été, et c'était vraiment super. Donc voilà, c'est sympa à voir.
Pour moi, le hip-hop, ça représente la danse urbaine avec la musique plutôt rythmée. Et j'ai déjà été voir un spectacle de hip-hop sur scène avec J2K, et c'était vraiment cool.
Je pense à une danse qui bouge, une danse avec de l'énergie. On exprime ce qu'on ressent à travers la danse. Oui, j'ai déjà vu la danse lors du festival du J2K.
Ce qui me viendra à l'esprit, c'est que c'est une danse plutôt libre, qui regroupe plusieurs styles, et qu'on danse plus dans les rues, c'est quelque chose de très convivial.
Danse hip-hop, c'est des acrobaties où on tourne sur sa tête, tout ça. C'est une danse pour les jeunes, hein, parce que les vieux, on ne peut plus. La musique rythmée, voilà, c'est tout à peu près.
On va essayer de vous expliquer globalement ce qu'est le hip-hop. Donc la danse hip-hop fait partie d'une vaste culture qui est le hip-hop, qui est composée de danse, de musique, de graves, de djing. Elle est apparue aux États-Unis dans les années 70 et s'est ensuite assez répandue un peu partout pour au final arriver jusqu'en France. Ce qui revient assez souvent, c'est les figures, les saltos, tout ce qui est raccroché à la breakdance. Mais beaucoup de personnes ignorent que la danse hip-hop est très vaste avec beaucoup de styles différents.
On retrouve notamment le popping, qui est une danse assez saccadée, le locking, qui est une danse plus festive, la house dance, la hype, et on peut aussi mélanger tous ces styles différents. Et c'est ça qui fait la richesse de cette danse. C'est une danse libre qui est constamment en train d'évoluer, avec beaucoup d'influences différentes.
Pour finir, on a demandé l'avis à un danseur hip-hop qui donne notamment des cours à Laval et qui nous a fait part de comment il s'y prenait pour transmettre sa passion et ce que représentait pour lui cette danse. Merci à tous.
Merci.
Ok, donc bonjour, Baba Diawara, donc danseur hip-hop, également animateur jeunesse à la ville de Laval. J'enseigne la danse hip-hop depuis 16 ans maintenant au conservatoire de Laval. Donc l'image qui me vient quand on parle de danse hip-hop, c'est surtout une identité très forte. C'est une danse où, pour les personnes qui la pratiquent, on essaie de vraiment utiliser qui ils sont. En fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir développer son identité à travers la danse. C'est une danse de caractère. On a vraiment besoin que les personnes qui dansent cette discipline, ce livre, c'est un outil qui permet aux jeunes et aux moins jeunes d'apprendre à se connaître par le biais de la danse. Donc, ce que les gens ne savent pas, à chaque fois quand on parle de danse hip-hop, ils vont surtout avoir des images liées à la breakdance, donc tout ce qui se passe au sol, l'acrobatie, Alors que la danse hip-hop, c'est vraiment une culture. Il y a plein de styles de danse différents. Ce que j'aime dans la danse hip-hop, c'est qu'on peut vraiment réadapter énormément l'énergie de cette danse en fonction de l'identité de chaque personne. Et voilà, elle laisse cette liberté-là. Certains sont plus timides, d'autres sont beaucoup plus extravertis. Et c'est ça qui fait la richesse de mon enseignement. J'essaie de me servir de ça pour essayer que tout le monde trouve sa place dans mes groupes et construire des spectacles dans lesquels tout le monde se retrouve.
Donc sujet très intéressant, on a appris beaucoup de nouvelles choses. Et ben passons tout de suite au deuxième sujet.
Oui, donc le deuxième sujet nous est présenté par Gaëtan et Antonin, ce sont les drones.
Ah.
Donc, peux-tu t'en parler ?
Ouais, très vite. Les drones, le 21e siècle, une nouvelle invention qui nous permettra de réaliser de magnifiques panoramas.
Effectivement, une nouvelle photo, nouvelle qualité. Les garçons, vous pouvez venir.
Bonjour, c'est Antonin et Gaëtan. Aujourd'hui, on va vous parler des drones. Qu'est-ce que c'est et à quoi ils servent ? Un drone désigne un appareil militaire. En France, le terme drone désigne aussi un aéronef sans pilote destiné à un usage public. Et on emploie drone militaire ou drone de combat pour désigner un matériel équipé d'armement.
Alors le concept des drones naît vers la fin de la Première Guerre mondiale. À l'origine, un drone était un avion sans pilote commandé par télégraphe. Pendant la guerre du Vietnam, les drones militaires sont de plus en plus utilisés. Et à partir des années 2000, les drones militaires prennent part à tous les conflits mondiaux. Encore aujourd'hui, le chiffre d'affaires des drones augmente très rapidement, passant de 62 millions de dollars en 2012 à 288 millions en 2015. Le premier drone français a été conçu en 1923 par Maurice Percheron.
Les drones sont utilisés au profit des forces armées, de sécurité. Ils peuvent aussi être utilisés par des professionnels. Les drones sont aussi utilisés pour tourner des vidéos ou des films.
Merci de nous avoir écoutés.
Jamais 203, passons tout de suite au troisième sujet.
Oui donc, le troisième sujet, c'est le Salon de Los Angeles, présenté par Nathan et Samuel.
Et donc, le Salon de Los Angeles, vous savez ce que c'est ? Parce que moi, personnellement, je vois pas trop.
Moi, je sais pas trop, mais je sais que c'est un salon qui est très apprécié par ses visiteurs.
Et donc, moi, j'ai regardé que c'était un salon où étaient regroupées plusieurs voitures de luxe. Et ils vont nous en parler de plus leur coup de cœur.
D'accord. Eh ben, les garçons, c'est à vous.
Salut à tous, c'est Samuel.
Et Nathan.
Donc, la voiture la plus attendue de ce salon est...
Le Range Rover Evoque, mais...
En cabriolet. Le toit souple électrique se déplie en 18 secondes.
Jusqu'à 48 km/h. Un moteur 4 cylindres avec turbo-essence de...
240 chevaux. Les inconvénients sont le coffre, qui perd 200 litres, et le prix.
En effet, pour s'offrir la nouvelle gamme de chez Land Rover,
il faudra dépenser au minimum 51 600 euros.
Sur le marché des SUV, la plus en vue est la Mercedes GLS.
Le nouveau gros monospace de la gamme, avec 7 places.
Elle est accompagnée d'une boîte automatique à 9 rapports.
La version la plus performante a un moteur 5,5 litres V8 biturbo.
Avec 585 chevaux. Les inconvénients sont le prix, le premier modèle est à 88 000 euros.
Et sa taille, 5,13 mètres de long et 1,9 mètres de large.
Dans ce salon, nous avons eu un petit coup de cœur pour deux voitures. Pour moi, c'est la nouvelle Fiat 124 Spider Abarth. Elle est vraiment magnifique, 160 chevaux, inspirée de la Mazda MX-5 et des années 1960. Un cabriolet très sympa, plutôt abordable, à environ 25 000 euros. Et sa commercialisation sera initiée par une version spéciale Anniversary avec seulement 124 000 modèles plus performants encore.
Moi, mon coup de cœur, c'est la nouvelle super sportive de la maison Lamborghini, la Hurricane LP610-4 à propulsion. Elle a une nouvelle transmission encore plus puissante avec un V10 qui pourrait dépasser les 610 chevaux. Elle passe de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et a une vitesse de pointe de 320 km/h.
Merci de nous avoir écoutés.
Ciao. Ciao.
C'était donc le troisième sujet. Nous arrivons au milieu de l'émission. C'est donc la
pause.
No. touched on as the rain came down. With a hint and a smile, a glint in her eye, on by. We were soaked to the bone. Just to come back again. So we ran under the pouring rain. Turned the corner just to come back again.
Et rebonjour à tous, on est reparti dans les studios d'IMC Radio, toujours avec Tristan.
Salut.
Et Geoffroy.
Bonjour tout le monde.
Et on va continuer nos sujets avec le quatrième.
Donc le quatrième sujet, c'est Johan et Evan qui nous en parlent, c'est Hunger Games 3, partie 2.
Alors, vous avez vu la saga Hunger Games ?
Moi je l'ai regardé un petit peu, je l'ai beaucoup aimé. Après, le film qui est sorti très récemment, j'accroche un petit peu moins.
Moi je n'ai vu que les deux premiers, donc...
Ah, moi j'ai vu les trois qui sont déjà sortis, plus le le 3 partie 2. Je l'ai pas encore vu, mais je pense qu'il a un peu perdu de son action et de son suspense.
Ah, je suis d'accord.
C'est ça, le côté des jeux.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Ouais, tout à fait.
Donc les garçons, c'est à vous.
Bonjour à tous, c'est Johan. Aujourd'hui, je vais vous parler de la saga Hunger Games avec Evan. Le quatrième volet de la saga Hunger Games, La Révolte, partie 2, tiré de la trilogie à succès écrite par Suzanne Collins, The Hunger Games, est sorti le 18 novembre dans toutes les salles françaises. Cependant, nous bénéficions d'une exclusivité puisqu'il ne sort que le 20 aux États-Unis et au Canada. Le premier film ayant fait un carton en 2012 fut réalisé par Gary Ross, mais les prochains films furent réalisés par Francis Lawrence. Le personnage principal de Katniss Everdeen sera heureusement toujours interprété par Jennifer Lawrence. Et pour ceux qui ne connaissent pas, voici un bref résumé.
Dans un monde post-apocalyptique séparé en 12 villes appelées districts, on suit les aventures de Katniss Everdeen, une habitante du district 12, donc le plus paumé, le jour de la moisson, un jour spécial où on choisit les participants des Hunger Games. Le principe c'est simple, un ado et une ado de chaque district sont choisis et envoyés dans une arène et engagés dans un match à mort. Elle se porte volontaire pour y participer et y gagne miraculeusement. Mais un an après, elle continue à faire des cauchemars des jeux et est renvoyée dans les arènes par le président mondial. Cependant, cette fois-ci, ils sont annulés. Et suite à cela, elle s'engage dans la rébellion mondiale pour arrêter ses traditions barbares et en devient le symbole. Et le quatrième, bah, j'ai pas encore eu le temps de le voir, donc je peux pas encore vous en parler.
Moi non plus, je l'ai pas encore vu. C'est terminé et maintenant, au revoir à tous.
C'est tout pour moi aussi.
Passons maintenant à l'avant-dernier sujet, Geoffroy, qui portera sur...
L'Overboard de Charles et de Mathis.
Donc, la nouvelle technologie, une fois de plus. Hein.
Ouais,
vous savez ce que c'est, l'Overboard ?
Moi, je sais pas trop. Je sais que ça permet de voler ou quelque chose comme ça, mais...
Bah, y a plusieurs types, et là, c'est un prototype. Pour l'instant, il n'est pas tout à fait terminé et mis en commerce. Mais oui, donc, c'est un skateboard qui vole. Vous aviez raison.
D'accord.
Très bien, et ben les garçons, vous pouvez venir nous expliquer ce que c'est.
Bonjour, c'est Charles et Mathis sur IMC Radio. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'Overboard de chez Lexus. Oui, Lexus a annoncé qu'ils travaillaient sur un prototype d'Overboard. Mais Mathis, qu'est-ce qu'un Overboard ?
L'Overboard est une évolution fictive du skateboard, dépourvu de roues et permettant de planer quelques centimètres au-dessus du sol. Il est apparu pour la première fois dans le film Retour vers le futur 2. Maintenant, Charles, dites-nous s'il est possible qu'un tel engin puisse exister.
Oui, bien sûr, mais dans d'autres mesures. Lexus a récemment publié une vidéo montrant des skateurs utilisant leur prototype d'overboard. Celui-ci exploite les propriétés des matériaux supraconducteurs. Ces derniers se caractérisent par leur absence de résistance électrique, c'est-à-dire qu'ils n'opposent aucune résistance au passage du courant.
Et oui, lorsque de tels matériaux sont portés à une température suffisamment basse, environ moins 195 degrés, ils génèrent alors un puissant champ magnétique suite à un phénomène physique complexe appelé Messner.
Effectivement, ce champ magnétique combiné à l'effet des aimants dissimulés sous la piste produit une force capable de faire léviter la planche. Mais j'imagine qu'il ne peut pas survoler plus de quelques minutes. L'azote ne restera pas éternellement à moins 195 degrés. Elle devrait se réchauffer très vite, non ?
En effet, Charles, c'est l'un des inconvénients majeurs et une contrainte de très grosse envergure. À cause de ça, l'overboard ne pourra pas fonctionner très longtemps. Et il faudra remplir celui-ci à chaque fois que le supraconducteur se réchauffera.
C'est bien ce que je pensais. Donc en clair, Lexus est loin d'avoir commercialisé cet overboard, même si c'est quand même un exploit de faire du skate sans roue qui lévite au-dessus du sol. Ce projet demande encore du travail.
Voilà, c'était Charles et Mathis sur IMC Radio. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, nous, ça nous a plu. A plus tard.
Salut.
Passons maintenant au dernier sujet de cette émission, le meilleur pour la fin.
Voilà. Le très attendu, Star Wars 7 de Mathias et de Nicolas.
Le film de l'année, le film le plus attendu. Vous avez déjà vu les autres Star Wars, les garçons ?
J'en ai vu quelques-uns, mais là vraiment, j'ai vu la bande-annonce et le film me fait très envie.
Voilà, oui, bah c'est vrai que toutes les salles, je crois, sont réservées, toutes les places sont réservées.
Plein de tickets, voilà. Ça a été réservé. Mais moi, j'en ai vu que deux, pour trois. Donc,
et celui qui arrive t'intéresse ou
Pas plus que ça.
D'accord. T'es pas très addict. Ok.
Ouais,
parce que je sais que les fans, vraiment, ils l'attendent de pied ferme, ce film.
Oui, effectivement, oui. C'était un des plus grands films
de l'histoire du film. Hein.
Pas vraiment.
En tout cas, nous avons des avis partagés. Laissons maintenant place à...
Mathias et Nicolas.
À Mathias et Nicolas. C'est parti, les garçons.
Bonjour, c'est Nicolas. Le 18 décembre, en France, nous allons assister à un grand événement. La sortie du tout dernier Star Wars. Star Wars 7, Le Réveil de la Force, est un film américain de science-fiction réalisé par J.J. Abrams, le réalisateur de Mission Impossible, Star Trek, Super 8 ou même la série Lost. Premièrement, pour les novices de Star Wars, nous allons vous résumer cette double trilogie. Alors, l'action se déroule il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine et se fonde sur la lutte entre les chevaliers Jedi et les Sith. Le personnage central, Anakin Skywalker, cède à la tentation du côté obscur de la Force pour devenir le célèbre Dark Vador, puis connaît sa rédemption grâce à son fils, Luke Skywalker. Bref, revenons au sujet principal. Cet événement va attirer de nombreux Jedi dans nos salles de cinéma. La prévente de billets a récolté 6,5 millions de dollars en une seule journée. De plus, en Amérique du Nord, le film occupera la totalité des salles de cinéma pendant 4 semaines consécutives. Impressionnant, non ? Pour finir, nous allons vous citer une belle histoire concernant le film.
Oui, alors que des millions de fans attendent la sortie du 7ème volet de Star Wars, Daniel Fleetwood a pu découvrir le film en exclusivité chez lui. L'histoire de ce Texan gravement malade a ému les acteurs du film et son réalisateur, qui a accepté de montrer une version non finalisée du film, et c'est en grande partie grâce aux réseaux sociaux. En juillet dernier, les médecins estimaient que ce Texan de 32 ans, atteint d'une forme rare de cancer en phase terminale, n'avait plus que 2 mois à vivre. Pas assez longtemps pour permettre à ce Texan de découvrir le nouveau volet du réveil de Star Wars, de la Force. 5 jours après avoir pu réaliser son rêve, Daniel Fleetwood est décédé du cancer des tissus conjonctifs. Voilà, c'est tout pour nous, à bientôt.
Et voilà, c'est donc la fin de notre émission. On se retrouvera la semaine prochaine pour de nouveaux sujets tout frais. Merci à vous de nous avoir écoutés et à la prochaine fois.
Salut tout le monde.
À la prochaine.
Salut.